On relève la sauce. Un peu de sel, un peu de poivre. Et quelques épices. À la découverte de la vie associative mayonnaise.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur l'autre radio et bienvenue dans l'émission On relève la sauce, alors émission où je vous propose de découvrir les ingrédients de la vie associative mayonnaise. Et pour ce mois de février, un mois plus court mais tout aussi riche en événements et en informations, et une fois n'est pas coutume, on va parler de radio. Mais pas n'importe quelle radio, si vous êtes sur l'autre radio, vous imaginez bien, on va parler de radio associative. En effet, cette semaine, c'est la semaine des radios associatives en Pays de la Loire, comme vous avez peut-être pu déjà l'entendre sur nos ondes, avec des portes ouvertes, avec des émissions spéciales et différentes choses. Une émission en public ce soir, par exemple, dans un bar de Lavallois, le Boggy Jam. L'autre radio participe donc à cette semaine puisqu'elle est membre de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, la FRAP. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de faire le point avec Valentin Beauvallès, le coordinateur de la FRAP, sur les particularités des radios associatives en Pays de Loire et un petit peu de clé de lecture autour de ce qu'est une radio associative. On garde bien sûr nos chroniques et aujourd'hui, Nora Duval de l'APES 53 nous parle de subventions. Et pour finir, on retrouvera Christophe Tropeau pour un petit coup d'œil dans le rétro au travers de l'histoire des associations dans les communes rurales mayennaises. Et aujourd'hui, Christophe revient sur l'impact des patronages catholiques en Mayenne entre 1880 et 1930, tout un programme. Alors c'est parti, et en ouverture de ce menu, je dirais, on reçoit Valentin. Bonjour Valentin.
Bonjour Anthony, bonjour à toutes et à tous.
Alors du coup, Valentin Beauvallès, vous êtes coordinateur de la FRAP, donc derrière cet acronyme Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Qu'est-ce que c'est exactement que cette fédération?
Alors la FRAP, donc, comme son nom l'indique, c'est une fédération qui rassemble les radios associatives à l'échelle de la région des Pays de la Loire. Donc c'est une association d'associations. La FRAP est composée de 22 radios qui sont réparties sur l'ensemble de la région et qui ont toutes comme particularité d'être sous format associatif, donc d'avoir une gouvernance associative, mais aussi et surtout une autorisation d'émettre sur les ondes, que ce soit en FM ou en DAB+, avec une catégorie qui est donnée par le CSA, c'est-à-dire qu'elles ont une mission en tant que radio associative, on les appelle les radios de catégorie A.
Et donc la FRAP en général, quelles sont ses actions, est-ce qu'il y a des choses en particulier, qu'est-ce qu'elle fait tout au long de l'année?
Alors la FRAP, sa première mission, c'est de représenter d'un point de vue politique et institutionnel les radios associatives à l'échelle régionale. À la fois donc pour le politique, mais aussi pour l'État en région, qui a une grande importance par rapport à nos missions, et aussi dans tout le secteur de l'ESS associatif de la région sur les autres structures régionales. C'était donc la première mission, et on va dire la principale et la première à la création de la FRAP. Ensuite, la FRAP, elle a forcément, comme toute fédération, une mission d'interconnaissance et d'échange entre les radios membres, c'est-à-dire de faire naître la mutualisation entre les radios. Alors, il y a plein de types de mutualisation à la FRAP. On a commencé avec de la mutualisation très technique, très liée au numérique, à l'arrivée d'Internet. C'était vraiment ça, la création. Et puis après, ça s'est décliné aussi sur de la mutualisation administrative. Il y a des agréments qui sont portés par la FRAP pour les radios associatives. Et plus dernièrement, même si c'est ce qui peut être le plus visible au niveau du grand public, il y a de la mutualisation plus éditoriale avec des programmes communs qui sont faits, des émissions communes. Pas plus tard que la semaine dernière, on était aux Inouïs du Printemps de Bourges à La Roche-sur-Yon. C'est une émission qui a été retransmise sur l'autre radio et qui a été faite à l'autre bout de la région. Ensuite, la FRAP, elle accompagne et elle conseille les radios associatives par rapport au changement du secteur, par rapport à l'évolution de la radio en règle générale, mais aussi du fonctionnement associatif. Et c'est un grand réseau qui permet à des personnes qui sont très éloignées les unes des autres et qui font les mêmes métiers d'échanger, de se connaître et de se conseiller et de s'accompagner les unes les autres. Voilà, c'est tout ça les missions de la FRAP.
Ça fait pas mal, ça fait pas mal. Et le don justement aussi, les semaines des radios associatives pour mettre un petit peu ces radios en valeur. Donc justement, on parle de radios associatives, de catégoria, de communication sociale de proximité, mais avec votre regard justement sur toute la région et la diversité en Pays de la Loire, quelles sont les particularités d'une radio associative, enfin, qu'est-ce qui est, comment est-ce qu'on peut la définir réellement en tant que telle?
Ouais, alors j'avais pas encore sorti ce terme barbare de communication sociale de proximité, mais effectivement c'est la mission et c'est ce qui est défini par le CSA et aussi et surtout le ministère de la Culture qui donne la plus grosse subvention pour le fonctionnement des radios associatives. Et c'est le terme qui définit la mission des radios associatives qui est en fait très très définie. Les radios associatives, elles sont présentes sur le territoire partout. Même aux endroits où il n'y a pas assez d'audience pour qu'un média classique puisse s'y installer. C'est surtout à cet endroit-là que l'on a besoin de médias qui assurent une continuité de l'information, de ce qui se passe sur le terrain. Donc les radios associatives, elles sont là pour faire des plateaux à l'extérieur de leur studio, pour pouvoir donner la parole à toutes et à tous, mais aussi pour traiter du développement local, de la structuration du territoire, de toutes ces choses-là, de l'égalité homme-femme, de tous les aspects socio-économiques pour vraiment faire du contenu. Et les radios associatives sont tenues de faire 4 heures de programme au minimum par jour, des programmes propres, c'est-à-dire vraiment de la création de contenu. Donc les radios associatives, elles sont, c'est ça un peu la définition, c'est un média qui est là pour créer du contenu, pour être le pluralisme de l'information sur les ondes et d'être un média citoyen. C'est un peu tout ça la définition à la fois technique administrative du CSA et du ministère de la Culture, mais aussi plus en langage plus commun.
Tout à fait. Ouais. Donc un outil citoyen en fait. Et est-ce qu'au niveau national, il y en a partout aussi? Quel est un peu l'impact, je dirais, des radios associatives, parce qu'on entend on connaît les grands médias, mais on connaît parfois peu aussi les médias associatifs. Quelle est la place?
Oui, alors effectivement, c'est un réseau qui couvre l'ensemble de la France. J'ai pas le chiffre en tête, mais on est autour de 600 radios associatives en France. Mmh. Ça représente 60% des acteurs, peut-être même un peu plus, de la radio. Donc les opérateurs majoritairement, enfin, sont des radios associatives. Par contre, si on regarde en face le nombre de fréquences qui sont attribuées, on est à 20% des fréquences qui sont attribuées aux radios associatives. Donc c'est à la fois un grand nombre et en même temps un nombre de fréquences et d'auditeurs potentiels qui n'est pas aussi gros que pour un opérateur national que sont les radios généralistes que l'on connaît.
Ben justement, quels sont un petit peu les enjeux actuels des radios associatives? En fait, tout simplement, est-ce que ça va dans les radios associatives?
Alors, moi, je dirais que oui, les radios associatives vont bien parce que elles ont un fonctionnement, une aide au fonctionnement qui est quand même stable. Elles sont reconnues, c'est unique au monde, le système des radios associatives en France. Donc, la première réponse, c'est oui, ça va bien. La deuxième réponse, c'est attention, on attend beaucoup des radios associatives parce qu'on est dans un secteur médiatique et des médias qui sont de plus en plus concentrés. On a des acteurs qui, dans d'autres secteurs, qui sont en grande difficulté. Et à certains endroits, il ne reste plus que les radios associatives. Et du coup, on attend beaucoup de ces mêmes radios. On les attend sur tous les aspects, sur la lutte contre la désinformation, sur l'éducation aux médias, sur la communication au local. Et à côté, nos radios, elles sont quand même sursollicitées. Et le rythme est assez dur à tenir. Voilà, c'est à la fois des médias qui existent et heureusement qu'ils sont là, et en même temps des médias dont on attend beaucoup, beaucoup.
D'accord. Avec justement aussi, est-ce qu'il y a le sentiment dans ces radios associatives d'une baisse du bénévolat ou justement d'une place plus importante des salariés? Est-ce qu'il y a des données là-dessus? Parce qu'on entend souvent ce attention, il n'y a plus de bénévoles. Mais est-ce que c'est valable aussi dans le secteur des radios associatives?
Alors, ce qu'on observe nous à la FRAP, c'est que le bénévolat se porte bien. On avait eu une hausse du bénévolat après la fin des emplois aidés qui avait fragilisé certaines radios. Là, tout d'un coup, on avait vu que les bénévoles étaient au rendez-vous, qu'ils étaient capables de prendre en main la radio quand il fallait assurer le surplus. Donc ça, c'était un peu des chiffres assez intéressants qui nous montraient que instantanément, on avait eu une baisse du salariat et une hausse du bénévolat dans l'activité. Dernièrement, le salariat continue à augmenter. On est passé à plus de 4 salariés en moyenne par radio. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Après, on entend dans l'ensemble du secteur associatif une chute du bénévolat, une chute des bénévoles dirigeants. C'est pas quelque chose que je ressens dans les radios associatives. C'est toujours du monde qui vient et qui s'implique. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit quand même travailler sur le bénévolat et le bénévole, on va dire, de base, qui vient pour apprendre la radio, pour faire de la radio et juste pour s'éclater, quoi. Et là, je pense qu'il faut que les radios associatives travaillent pour pouvoir attirer ces nouveaux bénévoles, parce qu'on a la chance d'être sur un média, l'audio, qui attire beaucoup. Est très très en vogue. On parle beaucoup de podcasts, on parle beaucoup de création sonore, de création radiophonique, et ça intéresse tout le monde, ça passionne les Français, et on voit apparaître ça et là des démarches très très individuelles de personnes qui se lancent dans le podcast, c'est quelque chose de très très bien, mais qui ne s'impliquent pas forcément dans un projet collectif. Et nous, toute la question pour les radios associatives actuellement, c'est de trouver le moyen d'attirer ces nouveaux créateurs de contenu sur l'audio. C'est-à-dire, en fait, de re-questionner notre modèle qui est basé sur la radio linéaire diffusée sur la FM, ça, il faut le garder, mais aussi comprendre comment attirer ces nouveaux acteurs de l'audio et comment concrètement renouveler notre bénévolat. Voilà. Mais dans l'ensemble, pour l'instant, ça se passe très bien, je pense, pour les radios associatives, sûrement mieux que dans d'autres secteurs associatifs.
D'accord. En fait, continuer à donner la parole et à offrir la possibilité à ceux qui créent de la création audio sous toutes ses formes de pouvoir trouver un public par le biais des antennes. Peut-être dernière question, dernière chose, on entend parler, et puis surtout en Mayenne, on entend que prochainement arrivera le DAB+. Est-ce qu'il y a un petit regard?
Alors le DAB+, c'est parti. À la frappe parce que ça a été un projet, donc dans un premier temps en expérimentation entre Nantes et Saint-Nazaire. Les radios de la Loire-Atlantique qui ont créé la frappe étaient très très innovantes et ont pu développer le DAB+. Ça a été lancé l'an dernier à Angers aussi. Voilà, ça se déploie à travers toute la France. Effectivement, ça a mis plus de temps à arriver, l'appel à candidature a mis plus de temps à arriver en Mayenne, mais maintenant on est dans le processus. Pourquoi ça a mis plus de temps à arriver en Mayenne? Parce qu'il y a tout simplement moins de radios et il y a une inquiétude sur le fait d'avoir assez d'opérateurs qui candidatent sur une fréquence DAB+. Donc là, j'ai perdu tous les auditeurs de l'autre radio, je m'en excuse. Le DAB+, on va résumer, c'est la radio numérique par les ondes, c'est-à-dire on est toujours sur une diffusion hertzienne de l'audio, sauf que le signal passe en numérique. Et le fait que le signal passe en numérique fait qu'on peut passer plus d'informations sur une seule fréquence. Donc concrètement, quand on émet en DAB+, sur une fréquence, on met 13 radios. Le son, normalement, est de meilleure qualité sur le DAB+, et on peut y associer des informations complémentaires, par exemple une image sur un émetteur qui aurait un écran, et l'image classique, on va dire, c'est la pochette de l'album, quand on diffuse un disque. Mais voilà, c'est tout ça le DAB+. Dans nos voisins, dans le reste de l'Europe, le DAB+, c'est bien plus avancé qu'en France. Dans certains pays, c'est vraiment la radio est plus écoutée en DAB+. Dans certaines zones, on a même coupé la FM. On tend vers ça et c'est bientôt pour la Mayenne.
Voilà, découvrir aussi une vingtaine de radios associatives représentées par la frappe, toutes diverses. Voilà, est-ce qu'il y a un dernier mot, est-ce qu'il y a une dernière chose à rajouter pour clôturer cette interview dans le cadre des semaines des radios associatives?
Qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Bonne écoute de la radio, continuez à être curieux, venez vous investir, apprendre à faire de la radio, c'est vraiment accessible, c'est vraiment sympa. Voilà, c'était la journée mondiale de la radio, c'était lundi 13 février, nous on le prolonge sur une semaine, il y a des portes ouvertes à l'autre radio. Venez nombreux, on est là pour se rencontrer et animer le territoire, et bravo à toute l'équipe, bénévoles, salariés, services de l'autre radio pour ses initiatives et pour la qualité de ses émissions.
Merci beaucoup Valentin Beauvallet, donc je répète, coordinateur de la Fédération des radios associatives en Pays de Loire. Belle fin de journée.
Bonne journée, merci.
La radio et la paix, c'est la thématique fixée justement cette année par l'UNESCO pour la Journée internationale de la radio. Alors, thème qui a inspiré les bénévoles de l'autre radio avec des émissions spéciales de Passe-moi le thème que vous pourrez retrouver dimanche soir à partir de 22h avec pour thème, attention, la paix. Et samedi de 13h à 15h, un Rock Dream spécial Woodstock. D'ailleurs, juste avant d'écouter cette émission, n'hésitez pas à passer nous voir puisque ce sont les portes ouvertes de l'autre radio à Château-Gontier de 9h30 à 13h dans nos studios au 11 rue Général Lemonnier. Toutes les infos sur notre site. On continue donc cette émission avec nos différentes chroniques juste après Miss Reed de Kings of Convenance.
Expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood. A cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. A friend is not a me. Somehow didn't notice friendship is an end. What do you know? It happened again. Just smile. What do you know? It happened again. What do you know?
Relève la sauce.
Et on poursuit cette émission avec maintenant la place à la chronique de l'économie sociale et solidaire avec l'APES 53, donc association de promotion de l'économie sociale et solidaire, avec Nora. Bonjour Nora.
Bonjour Anthony.
Et la dernière fois, nous avions fait un peu le point, un peu un tour de l'ensemble des financements possibles pour les associations. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur une en particulier, les subventions. Mais déjà, qu'est-ce qu'une subvention ?
Alors, une subvention fait partie des solutions de financement qui sont sans remboursement ou sans contrepartie financière. Ça permet de financer des investissements ou du fonctionnement. La subvention, c'est un choix qui relève des élus pour mettre en œuvre leur politique publique dans le cadre de la compétence générale ou spécifique de la collectivité. En effet, si les élus comme les associations ont la même perception généralement des attentes locales, les associations au plus près du terrain sont souvent les premières à chercher et répondre en définissant un projet adapté.
Mais en fait, toutes les associations ont une subvention de leur commune ?
Eh bien non, Anthony. Presque 4 associations sur 10 en France, soit près de 40%, ne perçoivent pas de subvention. Et cela représente tout de même pas loin de 600 000 associations. Alors soit c'est un choix, soit c'est subi. Par ailleurs, rappelons également que la plupart des associations qui en reçoivent perçoivent des sommes qui ne sont pas si élevées de la part, par contre, de leur premier financeur des associations, les communes, à savoir 57%. Ensuite, les relations financières avec les autres collectivités publiques sont plus rares. 14% environ des associations perçoivent des subventions des départements, par exemple. Ensuite, 5% de l'État, 5% des régions et seulement 0,4% de l'Europe.
D'accord, donc quelles associations peuvent être subventionnées ?
Et en fait, toute association qui est déclarée et immatriculée au répertoire SIRENE, sachant que l'administration ne subventionne que les associations dont l'activité est d'intérêt général. Donc, si tant est que l'activité relève de sa compétence légale et territoriale.
Très bien. Quelles sont les démarches alors à faire pour celles qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire ?
En fait, tout simplement, aller sur le site du servicepublic.fr, où là, l'association qui cherche à obtenir la subvention a un formulaire administratif à renseigner. Donc, les noms un peu barbares, hein, avec les numéros, vous savez, donc le CERFA 12156-05. Vous allez en fait retrouver vraiment sur le site toutes les informations pour remplir de manière correcte ce formulaire. Il peut être utilisé tant pour les subventions dites affectées à un projet ou à une action spécifique que pour le financement global, autrement dit une subvention de fonctionnement. Ensuite, un compte-rendu, à savoir que quand vous ferez la demande, ensuite il y aura un compte-rendu financier qui doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. L'utilisation des subventions qui sont attribuées par l'État, une collectivité ou un établissement public peuvent aussi, il faut le savoir, faire l'objet de contrôle.
Ok. Et est-ce qu'on peut avoir justement quelques exemples au niveau local d'appels à subventions ?
Alors tout à fait, on a le Fonds pour le développement de la vie associative, le FDVA, qui est un dispositif financier de l'État de soutien au développement de la vie associative avec des priorités de financement. Les campagnes ont commencé le 23 janvier dernier et attention, ça se termine le lundi 6 mars à midi. Donc pour rappel, il y a 2 dispositifs, il y a le FDVA 1 qui est la formation des bénévoles, et le FDVA 2, qui est le financement global aux nouveaux projets. Donc là, c'est un soutien au fonctionnement et aux projets innovants des associations. Donc pour la candidature, vous avez un tutoriel qui est disponible sur associationaupluriel.gouv.fr. Et puis, sur ce site-là, vous pouvez aussi être rebasculé sur le site de notre département pour des informations encore plus précises, localement. Il faut savoir que vous allez faire cette demande par le téléservice qui s'appelle le compte asso, mais encore une fois, toutes les informations sont disponibles sur les sites que je viens de vous citer. Enfin, le deuxième dispositif régional, donc en fait, même plusieurs dispositifs d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que d'une région à l'autre, les dispositifs de soutien à la vie associative ne sont pas les mêmes. Et récemment a été votée une nouvelle stratégie par la région Pays de la Loire, la stratégie égalité, civisme et engagement. Et donc, il y a 3 axes prioritaires qui en sont ressortis. L'égalité homme-femme, donc le soutien aux projets associatifs de lutte contre l'isolement et les violences faites aux femmes. Le deuxième axe qui est l'innovation sociale, donc là c'est contre la précarité estudiantine, la précarité hygiénique, le gaspillage alimentaire et en direction du handicap. Et enfin le troisième axe, le civisme et l'engagement, donc avec un soutien aux têtes de réseau de la vie associative et le développement des partenariats publics-privés dans le soutien aux associations. Vous allez retrouver en fait tous ces dispositifs sur le site de la région, paysdelaloire.fr, où il y a un moteur de recherche qui est très bien fait. Vous pouvez chercher par thématique, par profil. Et puis, vous avez aussi pour les dispositifs de manière plus globale, le site de la BPI, toujours, qui est vraiment une très bonne ressource, BPI France Création. Voilà pour ces dispositifs.
Merci beaucoup pour ces éclairages. Et si je veux un peu plus de conseils personnalisés, où est-ce que je peux me renseigner?
Vous avez effectivement notre association, la PES, mais comme d'autres acteurs qui peuvent être un lieu de ressources, comme je viens de le dire aussi, pour vous guider, vous accompagner. Vous voyez que ce n'est pas si évident que ça, surtout quand on commence. Et puis, un petit conseil pour terminer, il faut, de manière générale, pour demander une subvention, il faut savoir bien cibler ses besoins, être précis dans sa demande, se diriger vers le bon interlocuteur, être précis. C'est justement aussi en ça que nous, acteurs de l'accompagnement, on peut vous aider.
Et si vous voulez retrouver toutes les coordonnées, vous allez directement sur le site apes53.org. Merci Nora.
Merci Anthony.
Et pour terminer cette émission, on finit sur la chronique de Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors ce mois-ci, on évoque le tout début du XXe siècle, époque à laquelle les patronages catholiques s'affirment dans le paysage associatif des campagnes mayonnaises. S'ils s'affirment au début du XXe siècle, cela veut donc dire que les patronages catholiques existaient bien avant ?
Oui, effectivement, les premières expériences de patronage catholique, c'est-à-dire d'associations organisées par des religieux à destination d'un public de jeunes et à l'origine exclusivement des garçons, avec un objectif ludique, ce sont d'abord des expériences que l'on trouve dans les grandes villes à partir des années 1830, comme à Marseille ou dans la région à Angers. Mais ces premières expériences, elles restent très limitées parce que la hiérarchie ecclésiastique n'est pas très convaincue de l'utilité de telles structures et préfère appeler le clergé local à se consacrer à un rôle strictement pastoral. Il n'empêche, en 1877, de manière quasiment simultanée, à Cran et à Cossé-le-Vivien, on voit apparaître les deux premiers patronages ruraux mayennais que j'ai pu répertorier. Ils se présentent comme des déclinaisons des sociétés de cure, hein, ces sociétés de loisirs qu'on a déjà évoquées dans cette chronique, qui étaient présidées par le curé, mais qui étaient réservées à un public d'hommes majeurs. Ici, dans ces patronages, on peut intégrer la structure dès l'âge de 12 ans et y participer jusqu'à son mariage, ce qui fait d'ailleurs que des vieux célibataires peuvent fréquenter encore le patronage à plus de 30 ans. Et dans ce patronage-là, on peut y pratiquer, je cite, « des récréations honnêtes » et y avoir, je cite toujours, un agréable passe-temps, c'est-à-dire que on y lit, il y a un cabinet de lecture, on y joue, en salle ou en extérieur.
Mais ces deux patronages, là, justement, à Cran et à Cossé-le-Vivien, ce restent des exceptions à la fin du 19e ?
Oui, effectivement, comme je le disais, la hiérarchie ecclésiastique n'est globalement pas très encourageante pour ce genre de projet qu'elle considère comme une perte de temps pour le clergé local. Même les lois portées par le ministre de l'Instruction publique, Jules Ferry, en 1881 et 1882, qui fondent une école obligatoire, gratuite et laïque, ne portent pas l'église locale à réagir, tout du moins en Mayenne. Sans doute, le clergé local considère-t-il que le poids du catholicisme est si fort dans le département que rien ne peut vraiment l'affaiblir.
Mais alors, qu'est-ce qui change en fait au début du XXe siècle ?
Eh bien, ce qui change, ce sont deux lois. Tout d'abord, la loi du 1er juillet 1901 qui définit le statut des associations et leur liberté d'action en opposition avec les congrégations religieuses sur laquelle l'État garde un contrôle assez strict. Et puis surtout, la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État met le feu aux poudres localement avec des troubles importants en Mayenne. Et à partir de là, la création de patronages destinés aux jeunes devient pour la hiérarchie catholique, notamment pour l'évêque de Laval qui s'exprime sur le sujet, un moyen de résistance face à la laïcisation. Et ces patronages deviennent aussi nécessaires que le catéchisme.
Et du coup, comment s'organise un patronage ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'on y fait concrètement ?
Alors, l'Église catholique, elle n'est pas bête, elle évolue avec son temps et elle veut attirer un jeune public. Donc, il ne faut pas se contenter de lecture ou de jeux de cartes comme autrefois. Et les patronages donc, se mettent à la gymnastique, au tir, au sport en général et au foot en particulier. Et dans les années 1920-1930, le jeudi et le dimanche, les jeunes vicaires, qui sont les adjoints des curés, proposent des sorties dans les bois pour faire des cabanes, organisent des courses de vélo dans la campagne, des séances de cinéma, des représentations théâtrales. Et ça marche. Ça marche auprès des jeunes garçons, mais aussi des jeunes filles qui, elles, vont être encadrées par des religieuses ou des femmes recrutées parmi les fidèles du village. Entre 1909 et 1939, une association sur deux destinée aux jeunes dans les campagnes mayonnaises est un patronage. Et donc, on en compte, à la fin de ma période d'études, plus d'une trentaine à l'échelle du département. Et si vous voulez vous rendre compte un petit peu de ce dynamisme des patronages catholiques, je vous conseille le visionnage en ligne sur le site internet des archives départementales de la Mayenne des petits films qui ont été tournés à Pré-Empaille au début des années 1930 par Georges Guenoux, qui est un secrétaire du patronage catholique local, l'Intrépide.
Et cet essor des patronages catholiques ne pose aucun problème justement à l'État laïque ?
Ben, si, en fait, et on peut constater qu'en France, l'État a toujours eu du mal avec la liberté associative. À l'heure aujourd'hui où l'État demande à chaque association un contrat d'engagement républicain pour lutter contre le séparatisme, il est amusant de constater que dans les années 1910-1930, ce qui est craint par l'État, c'est le séparatisme catholique. Par exemple, pour faire du tir, il faut un agrément préfectoral pour avoir des fusils et des balles. Et donc, tout intervenant d'un patronage catholique doit montrer patte blanche républicaine, sous peine de se voir privé de moyens matériels et financiers, voire de se faire interdire la création de l'association. Et l'avis que l'État se fait de tel ou tel dirigeant associatif dépend souvent de l'avis du maire de la commune. Et donc, nous reviendrons le mois prochain sur ces relations complexes entre associations et municipalités.
Tout un programme. Merci beaucoup, Christophe.
Au revoir.
Petit tour des actualités associatives pour cette fin février. Comme l'a précisé Nora de l'APES 53 dans sa chronique, dernière ligne droite pour le dépôt de demandes de subvention FDVA, puisque la clôture est prévue le 6 mars à midi. On le rappelle, vous retrouverez donc toutes les infos sur le site dédié et la démarche est à faire par le biais du compte Asso. Retraite et bénévolat, une vraie réflexion est à mener. C'est le titre du communiqué du mouvement associatif qui alerte sur les risques pour le bénévolat en cas de recul de l'âge du départ à la retraite proposé dans le cadre de la nouvelle réforme débattue en ce moment. En effet, une majorité des bénévoles en France ont plus de 50 ans et le temps libre à disposition est bien évidemment un facteur important d'engagement associatif. Le mouvement associatif donc s'inquiète de l'impact de ce départ à la retraite reculé, que ce soit à la fois en termes de disponibilité et d'engagement, et donc de répercussions sur les actions et le modèle économique même du secteur associatif. Je vous invite donc à lire cet article sur le site lemouvementassociatif.org en cette journée de mobilisation. D'ailleurs, toujours en lien avec le mouvement associatif, une enquête flash nationale menée avec aussi donc, le mouvement associatif et l'appui de Recherche et Solidarité cherche à mesurer les conséquences de la hausse des coûts de l'énergie et de nombreux biens et services sur l'activité des associations et de leurs bénévoles. Je vous invite donc à contribuer à cette enquête et je vous incite également à consulter la page Les associations et le prix de l'énergie sur le site association.gouv.fr où vous pouvez retrouver d'ailleurs différents dispositifs d'aide face aux hausses des coûts d'énergie. Rescrit fiscal, qu'est-ce que c'est ? Comment, pourquoi et quand faire une demande de rescrit fiscal ? C'est les questions sur lesquelles trois experts, invités par l'APES 53, vous proposeront un éclairage le mardi 21 février à 9h, Maison des associations à Laval. Donc Véronique Parent, expert comptable à AMCA, Sabrina Enoch, avocate au barreau de Laval et Olivier Houdemont, inspecteur des finances publiques de la DDFIP de la Mayenne, seront présents pour répondre à vos questions. Donc les inscriptions se font directement sur le site de l'APES 53.org. Le bénévolat a-t-il de l'avenir ? Eh oui, c'est la question un peu provocante que se posent le 6x4 et l'autre radio. Et on prendra le temps d'y répondre avec nos invités lors d'une émission spéciale en public le 7 mars au 6x4 à Laval à partir de 18h. Venez donc nous voir, venez donc nous écouter, venez donc donner votre avis. Et en plus, c'est gratuit. Et c'est la fin de cette émission, on relève la sauce, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur notre site internet en podcast et aussi l'ensemble des informations sur la page Vie associative en Mayenne. Si vous souhaitez d'ailleurs nous communiquer ou partager des informations ou même annoncer un événement de votre association, envoyez-nous un petit mail à contact@l'autreradio.fr ou laissez-nous un message à l'attention des auditeurs au 09 70 40 59 40. Il me reste donc juste à vous souhaiter une belle fin de journée à l'écoute de l'autre radio, à vous donner rendez-vous le mois prochain et pour ceux qui le souhaitent, de venir nous voir ce soir au Boogie Jam à Laval pour l'émission en public sorcière et sinon samedi matin pour les portes ouvertes à Château-Gontier. À très vite.